Histoire naturelle, suite 4, fin. Chauve-souris. La nuit s'use à force de servir. Elle ne s'use point par le haut dans ses étoiles. Elle s'use comme une robe qui traîne à terre, entre les cailloux et les arbres, jusqu'au fond des tunnels malsains et des caves humides. Il n'est pas de coin où ne pénètre un pan de nuit. L'épine le crève, l'effroi le gerce, la boue le gâte. Et chaque matin, quand la nuit remonte, des loques s'en détachent, accrochées au hasard. Ainsi naissent les chauves-souris. Et elles doivent à cette origine de ne pouvoir supporter l'éclat du jour. Le soleil couché, quand nous prenons le frais, elles se décollent des vieilles poutres où, léthargiques, elles pendaient d'une griffe. Leur vol gauche nous inquiète. D'une aile baleinée et sans plumes, elles palpitent autour de nous. Elles se dirigent moins avec d'inutiles yeux blessés qu'avec l'oreille. Mon ami cache son visage, et moi, je détourne la tête par peur du choc impur. On dit qu'avec plus d'ardeur que notre amour même, elle nous sucerait le sang jusqu'à la mort. Comme on exagère. Elles ne sont pas méchantes, elles ne nous touchent jamais. Filles de la nuit, elles ne détestent que les lumières. Et du frôlement de leurs petits châles funèbres, elles cherchent des bougies à souffler. La cage sans oiseaux. Félix ne comprend pas qu'on tienne des oiseaux prisonniers dans une cage. « De même, dit-il, que c'est un crime de cueillir une fleur, et personnellement, je ne veux la respirer que sur sa tige. De même, les oiseaux sont faits pour voler. » Cependant, il achète une cage. Il l'accroche à sa fenêtre, il y dépose un nid d'ouate, une soucoupe de graines, une tasse d'eau pure et renouvelable. Il y suspend une balançoire et une petite glace. Et comme on l'interroge avec surprise, « Je me félicite de ma générosité, dit-il, chaque fois que je regarde cette cage. Je pourrais y mettre un oiseau, et je la laisse vide. Si je voulais, telle grive brune, tel bouvreuil pimpant qui sautille, ou tel autre de nos petits oiseaux variés, serait esclave. Mais grâce à moi, l'un d'eux, au moins, reste libre. » C'est toujours ça. Le serin. Quelle idée ai-je eue d'acheter cet oiseau ? L'oiselier me dit : c'est un mâle, attendez une semaine qu'il s'habitue et il chantera. Or, l'oiseau s'obstine à se taire et il fait tout de travers. Dès que je remplis son gobelet de graines, il les pille du bec et les jette aux quatre vents. J'attache avec une ficelle un biscuit entre deux barreaux. Il ne mange que la ficelle. Il repousse et frappe comme d'un marteau le biscuit et le biscuit tombe. Il se baigne dans son eau pure et il boit dans sa baignoire. Il crotte au petit bonheur dans les deux. Il s'imagine que l'échaudée est une patte toute prête où les oiseaux de son espèce se creusent des nids et il s'y blottit d'instinct. Il n'a pas encore compris l'utilité des feuilles de salade et ne s'amuse qu'à les déchirer. Quand il pique une graine pour de bon, pour l'avaler, il fait peine. Il la roule d'un coin à l'autre du bec et la presse et l'écrase et tortille sa tête comme un petit vieux qui n'a plus de dents. Son bout de sucre ne lui sert jamais. Est-ce une pierre qui dépasse, un balcon ou une table peu pratique? Il lui préfère ses morceaux de bois. Il en a deux qui se superposent et se croisent, et je m'écœure à le regarder sauter. Il égale la stupidité mécanique d'une pendule qui ne marquerait rien. Pour quel plaisir saute-t-il ainsi, sautillant par quelle nécessité? S'il se repose de sa gymnastique morne, perché d'une patte sur un bâton qui l'étrangle, il cherche de l'autre patte, machinalement, le même bâton. Aussitôt que, l'hiver venu, on allume le poêle, il croit que c'est le printemps, l'époque de sa mue, et il se dépouille de ses plumes. L'éclat de ma lampe trouble ses nuits, désordonne ses heures de sommeil. Il se couche au crépuscule. Je laisse les ténèbres s'épaissir autour de lui. Peut-être rêve-t-il. Brusquement, j'approche la lampe de sa cage. Il rouvre les yeux. Quoi ? C'est déjà le jour ? Et vite, il recommence de s'agiter, danser, cribler une feuille, et il écarte sa queue en éventail, décolle ses ailes. Mais je souffle la lampe, et je regrette de ne pas voir sa mine ahurie. J'ai bientôt assez de cet oiseau muet qui ne vit qu'à rebours, et je le mets dehors par la fenêtre. Il ne sait pas plus se servir de la liberté que d'une cage. On va le reprendre avec la main. Qu'on se garde de me le rapporter. Non seulement je n'offre aucune récompense, mais je jure que je ne connais pas cet oiseau. Le pinson. Au bout du toit de la grange, un pinson chante. Il répète, par intervalles égaux, sa note héréditaire. À force de le regarder, l'œil trouble ne le distingue plus de la grange massive. Toute la vie de ces pierres, de ce foin, de ces poutres et de ces tuiles s'échappe par un bec d'oiseau. Ou plutôt, la grange elle-même siffle un petit air. Le nid de chardonneret. Il y avait, sur une branche fourchue de notre cerisier, un nid de chardonneret joli à voir, rond, parfait, tout crins au dehors, tout duvet au dedans, et quatre petits venaient d'y éclore. Je dis à mon père, « J'ai presque envie de les prendre pour les élever. » Mon père m'avait expliqué souvent que c'est un crime de mettre des oiseaux en cage, mais cette fois, là, sans doute, de répéter la même chose, il ne trouva rien à me répondre. Quelques jours après, je lui dis, « Si je veux, ce sera facile. Je placerai d'abord le nid dans une cage, j'attacherai la cage au cerisier, et la mère nourrira les petits par les barreaux, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'elle. » Mon père ne me dit pas ce qu'il pensait de ce moyen. C'est pourquoi j'installai le nid dans une cage, la cage sur le cerisier, et ce que j'avais prévu arriva. Les vieux chardonnerets, sans hésiter, apportèrent aux petits des pleins becs de chenilles. Et mon père observait de loin, amusé comme moi, leur va-et-vient fleuri, leur vol teint de rouge sang et de jaune soufre. Je dis un soir, « Les petits sont assez drus. S'ils étaient libres, ils s'envoleraient. Qu'ils passent une dernière nuit en famille, et demain je les porterai à la maison. Je les pendrai à ma fenêtre, et je te prie de croire qu'il n'y aura pas beaucoup de chardonnerets au monde mieux soignés. » Mon père ne me dit pas le contraire. Le lendemain, je trouvai la cage vide. Mon père était là, témoin de ma stupeur. « Je ne suis pas curieux, dis-je, mais je voudrais bien savoir quel est l'imbécile qui a ouvert cette cage. » Le loriot. Je lui dis, « Rends-moi cette cerise tout de suite. »« Bien, » répond le loriot. Il rend la cerise et, avec la cerise, les 300 000 larves d'insectes nuisibles qu'il avale dans une année. Le moineau. Assis sous les noisetiers du jardin, j'écoute les bruits que fait par ses feuilles, ses insectes et ses oiseaux tout arbre qui ne se méfie pas. Silencieux, inanimé à notre approche, il se remet à vivre dès qu'il ne nous croit plus là, parce que nous nous taisons comme lui. Après la visite d'un chardonneret qui voltige dans les noisetiers, donne aux feuilles quelques coups de bec et repart sans m'apercevoir, c'est un moineau qui vient se poser sur une branche au-dessus de ma tête. Bien que déjà dru, il doit être jeune. Il serre la branche avec ses pattes, il ne bouge plus, comme si le vol l'avait fatigué, et il pépit d'un bec tendre. Il ne peut pas me voir, et je le regarde longtemps. Puis il me faut bien remuer. Au mouvement que je fais, le moineau ouvre à peine ses ailes et les referme sans inquiétude. Je ne sais pourquoi je me dresse, machinale, et du bout des lèvres, la main tendue, je l'appelle. Le moineau, d'un vol gauche, descend de sa branche sur mon doigt. Je me sens émue comme un homme qui se découvre un charme ignoré jusque-là, comme un rêveur qui souriait par hasard à une femme inconnue et la voit sourire. Le moineau confiant bat des ailes pour garder son équilibre au bout de mon doigt, et son bec est prêt à tout avaler. Comme je vais le montrer à la famille, sûrement émerveillée, notre petit voisin Raoul, qui semblait chercher quelque chose, accourt. « Ah, vous l'avez ?» dit-il. « Oui, camarade, je sais les prendre, moi. »« Il s'est sauvé de sa cage, » dit Raoul. « Je le cherche depuis ce matin. »«
Comment ? C'est le tien ?»«
Oui, monsieur, il y a 8 jours que je l'élève. Il commence à voler loin et il reste bien apprivoisé. »«
Voilà ton moineau, Raoul. Mais ne le laisse plus s'échapper, sinon je l'étrangle. Il me fait des peurs. »
Les hirondelles. 1. Elle me donne ma leçon de chaque jour. Elle pointille l'air de petits cris, elle trace une raie droite, pose une virgule au bout et, brusquement, vont à la ligne. Elles mettent, entre folles parenthèses, la maison où j'habite. Trop vives pour que la pièce d'eau du jardin prenne copie de leur vol, elles montent de la cave au grenier. D'une plume d'ailes légères, elles bouclent d'inimitables paraphes. Puis, deux à deux, en accolade, elles se joignent, se mêlent, et, sur le bleu du ciel, elles font tache d'encre. Mais l'œil d'un ami peut seul les suivre, et si vous savez le grec et le latin, moi, je sais lire l'hébreu que décrivent dans l'air les hirondelles de cheminée. Le pinson.
Je trouve l'hirondelle stupide. Elle croit qu'une cheminée, c'est un arbre.
La chauve-souris. Et on a beau dire, de nous deux, c'est elle qui vole le plus mal. En plein jour, elle ne fait que se tromper de chemin. Si elle volait la nuit comme moi, elle se tuerait à chaque instant. 2.
Une douzaine d'hirondelles à cul blanc se croisent sous mes yeux avec une ardeur inquiète et silencieuse, en un espace limité comme une volière. C'est à mon nez un tissage rapide d'ouvrières pressées par le temps. Que cherchent-elles éperdues dans l'air criblé de leur vol? Demandent-elles un refuge? Ont-elles quelque adieu à me dire? Immobile, je sens la fraîcheur des souffles légers. Et je crains, j'espère, une rencontre où deux de ces folles se briseraient. Mais, d'une adresse qui décourage, elles disparaissent tout à coup sans un choc. La pie. Il lui reste toujours du dernier hiver un peu de neige. Elle sautille à pieds joints par terre, puis, de son vol droit et mécanique, elle se dirige vers un arbre. Quelquefois, elle le manque et ne peut s'arrêter que sur l'arbre voisin. Commune, si dédaignée qu'elle semble immortelle, en habit dès le matin pour bavarder jusqu'au soir, insupportable avec sa queue de pie, c'est notre oiseau le plus français. La pie. Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. La grenouille. Qu'est-ce qu'elle dit ? La pie. Je ne dis pas, je chante. La grenouille. Couac ! La taupe. Taisez-vous donc là-haut, on ne s'entend plus travailler. Merle. Dans mon jardin, il y a un vieux noyer presque mort qui fait peur aux petits oiseaux. Seul un oiseau noir habite ses dernières feuilles. Mais le reste du jardin est plein de jeunes arbres fleuris, où nichent des oiseaux gais, vifs et de toutes les couleurs. Et il semble que ces jeunes arbres se moquent du vieux noyé. À chaque instant, il lui lance, comme des paroles taquines, une volée d'oiseaux babillards. Tour à tour, Pierrot, Martin, Mésanges et Pinson le harcèlent. Il choque de l'aile la pointe de ses branches. L'air crépite de leurs cris menus. Puis il se sauve, et c'est une autre bande importune qui part des jeunes arbres. Tant qu'elle peut, elle nargue, piaille, siffle et s'égosille. Ainsi, de l'aube au crépuscule, comme des mots railleurs, Pinson, Mésanges, Martin et Pierrot s'échappent des jeunes arbres vers le vieux noyer. Mais parfois, il s'impatiente. Il remue ses dernières feuilles, lâche son oiseau noir et répond « Merle !» Le jet. « Toujours en noir, vilain merle !» Le merle. « Monsieur le sous-préfet, je n'ai que ça à me mettre !» Le perroquet. « Pas mal ! Et il avait bien quelques mérites au temps où les bêtes ne parlaient pas. Mais aujourd'hui, toutes les bêtes ont du talent. » L'alouette. Ah ! Je n'ai jamais vu d'alouette, et je me lève inutilement avec l'aurore. L'alouette n'est pas un oiseau de la terre. Depuis ce matin, je foule les mottes et les herbes sèches. Des bandes de moineaux gris ou de chardonnerets peints à vif flottent sur les haies d'épines. Le jet passe la revue des arbres dans un costume officiel. Une caille rase des luzernes et trace au cordeau la ligne droite de son vol. Derrière le berger, qui tricote mieux qu'une femme, les moutons se suivent et se ressemblent. Et tout s'imprègne d'une lumière si neuve que le corbeau, qui ne présage rien de bon, fait sourire. Mais écoutez comme j'écoute. Entendez-vous quelque part, là-haut, piler dans une coupe d'or des morceaux de cristal? Qui peut me dire où l'alouette chante? Si je regarde en l'air, le soleil brûle mes yeux. Il me faut renoncer à la voir. L'alouette vit au ciel, et c'est le seul oiseau du ciel qui chante jusqu'à nous. 2. Elle retombe, ivre morte de s'être encore fourrée dans l'œil du soleil. Le martin pêcheur. Ça n'a pas mordu ce soir, mais je rapporte une rare émotion. Comme je tenais ma perche de ligne tendue, un martin pêcheur est venu s'y poser. Nous n'avons pas d'oiseau plus éclatant. Il semblait une grosse fleur bleue au bout d'une longue tige. La perche pliait sous le poids. Je ne respirais plus, tout fier d'être pris pour un arbre par un martin pêcheur. Et je suis sûre qu'il ne s'est pas envolé de peur, mais qu'il a cru qu'il ne faisait que passer d'une branche à une autre. L'épervier. Il décrit d'abord des ronds sur le village. Il n'était qu'une mouche, un grain de suie. Il grossit à mesure que son vol se resserre. Parfois, il demeure immobile. Les volailles donnent des signes d'inquiétude. Les pigeons rentrent au toit. Une poule, d'un cri bref, rappelle ses petits, et on entend cacarder les oies vigilantes d'une basse-cour à l'autre. L'épervier hésite et plane à la même hauteur. Peut-être n'en veut-il qu'aux coqs du clocher. On le croirait pendu au ciel par un fil. Brusquement, le fil casse, l'épervier tombe, sa victime choisie. C'est l'heure d'un drame ici-bas. Mais, à la surprise générale, il s'arrête avant de toucher terre, comme s'il manquait de poids, et il remonte d'un coup d'aile. Il a vu que je le guette de ma porte, et que je cache derrière moi quelque chose de long qui brille.
La bergeronnette. Elle court autant qu'elle vole. Et toujours dans nos jambes, familière, imprenable, elle nous défie, avec ses petits cris, de marcher sur sa queue.
Le jet, le sous-préfet au champ.
Le corbeau. 1. L'accent grave sur le sillon. 2. Quoi, quoi, quoi?
Rien.
3. Les corbeaux passent sous un ciel bleu et sans couture. Tout à coup, l'un d'eux, qui est en tête, ralentit et trace un grand cercle. Les autres tournent derrière lui. Ils semblent danser une ronde par ennui de la route et faire des grâces avec leurs ailes tendues, comme les plis d'une jupe.
Un corbeau.
Tout à l'heure, annonçait malheur à quelque oiseau. J'ai pris mon fusil et tué le corbeau. Il ne s'était pas trompé.
Les perdrix.
La perdrix et le laboureur vivent en paix. Lui, derrière sa charrue, elle, dans la luzerne voisine, à la distance qu'il faut l'un de l'autre pour ne pas se gêner. La perdrix connaît la voix du laboureur. Elle ne le redoute pas quand il crie ou qu'il jure. Que la charrue grince, que le bœuf tousse et que l'âne se mette à braire, elle sait que ce n'est rien. Et cette paix dure jusqu'à ce que je la trouble. Mais j'arrive et la perdrix s'envole. Le laboureur n'est pas tranquille, le bœuf non plus, l'âne non plus. Je tire, et au fracas d'un importun, toute la nature se désordonne. Ces perdrix, je les lève d'abord dans une étole, puis je les relève dans une luzerne, puis je les relève dans un pré, puis le long d'une haie, puis à la corne d'un bois, puis... Et tout à coup, je m'arrête, en sueur, et je m'écrie « Ah ! Les sauvages me font-elles courir ?» De loin, j'ai aperçu quelque chose au pied d'un arbre, au milieu du pré. Je m'approche de la haie et je regarde par-dessus. Il me semble qu'un col d'oiseau se dresse à l'ombre de l'arbre. Aussitôt, mes battements de cœur s'accélèrent. Il ne peut y avoir dans cette herbe que des perdrix. Par un signal familier, la mère, en m'entendant, les a fait se coucher à plat. Elle-même s'est baissée. Son col seul reste droit et elle veille. Mais j'hésite, car le col ne remue pas et j'ai peur de me tromper, de tirer sur une racine. Ça et là, autour de l'arbre, des taches, jaunes, perdrix ou mottes de terre, achèvent de me troubler la vue. Si je fais partir les perdrix, les branches de l'arbre m'empêcheront de tirer au vol. Et j'aime mieux, en tirant par terre, commettre ce que les chasseurs sérieux appellent un assassinat. Mais ce que je prends pour un col de perdrix ne remue toujours pas. Longtemps j'épie. Si c'est bien une perdrix, elle est admirable d'immobilité et de vigilance. Et toutes les autres, par leur façon de lui obéir, méritent cette gardienne. Pas une ne bouge. Je fais une feinte. Je me cache tout entier derrière la haie et je cesse d'observer. Car tant que je vois la perdrix, elle me voit. Maintenant, nous sommes tous invisibles dans un silence de mort. Puis, de nouveau, je regarde. Oh, cette fois, je suis sûre. La perdrix a cru à ma disparition. Le col s'est haussé et le mouvement qu'elle fait pour le raccourcir la dénonce. J'applique lentement à mon épaule ma crosse de fusil. Le soir, là et repu, avant de m'endormir d'un sommeil giboyeux, je pense aux perdrix que j'ai chassées tous les jours et j'imagine la nuit qu'elles passent. Elles sont affolées.
Pourquoi en manque-t-il à l'appel? Pourquoi en est-il qui souffrent et qui, becquetant leurs blessures, ne peuvent tenir en place? Et pourquoi s'est-on mis à leur faire peur à toutes? À peine se pose-t-elle maintenant que celle qui guette sonne l'alarme. Il faut repartir, quitter l'herbe ou les teules. Elles ne font que se sauver, et elles s'effraient même des bruits dont elles avaient l'habitude. Elles ne s'ébattent plus, ne mangent plus, ne dorment plus. Elles n'y comprennent rien. Si la plume qui tombe d'une perdrix blessée venait se piquer d'elle-même à mon chapeau de fier chasseur, je ne trouverais pas que c'est exagéré. Dès qu'il pleut trop ou qu'il fait trop sec, que mon chien ne sent plus, que je tire mal et que les perdrix deviennent inabordables, je me crois en état de légitime défense. Il y a des oiseaux, la pie, le jais, le merle, la grive, avec lesquels un chasseur qui se respecte ne se bat pas. Et je me respecte. Je n'aime me battre qu'avec les perdrix. Elles sont si rusées. Leur ruse, c'est de partir de loin. Mais on les rattrape et on les corrige. C'est d'attendre que le chasseur ait passé, mais derrière lui, elles s'envolent trop tôt et il se retourne. C'est de se cacher dans une luzerne profonde, mais il y va tout droit. C'est de faire un crochet au vol, mais ainsi elle se rapproche. C'est de courir au lieu de voler, et elle court plus vite que l'homme, mais il y a le chien. C'est de s'appeler quand on les divise, mais elles appellent aussi le chasseur, et rien ne lui est plus agréable que leur chant. Déjà, ce couple de jeunes commençait de vivre à part. Je les surpris, le soir, au bord d'un labouré. Elles s'envolèrent, si étroitement jointes, elles dessus, elles dessous, je peux dire, que le coup de fusil qui tua l'une démonta l'autre. L'une ne vit rien et ne sentit rien, mais l'autre eut le temps de voir sa compagne morte et de se sentir mourir près d'elle. Toutes deux, au même endroit de la terre, elles ont laissé un peu d'amour, un peu de sang et quelques plumes. Chasseur, d'un coup de fusil, tu as fait deux beaux coups. Va les compter à ta famille. Ces deux vieilles de l'année dernière, dont la couvée avait été détruite, ne s'aimaient pas moins que des jeunes. Je les voyais toujours ensemble. Elles étaient habiles à m'éviter, et je ne m'acharnais pas à leur poursuite. C'est par hasard que j'en ai tué une, et puis j'ai cherché l'autre, pour la tuer, elle aussi, par pitié. Celle-ci a une patte cassée qui pend, comme si je la retenais par un fil. Celle-là suit d'abord les autres, jusqu'à ce que ses ailes la trahissent. Elle s'abat et elle piète. Elle court tant qu'elle peut devant le chien, légère et à demi hors des sillons. Celle-ci a reçu un grain de plomb dans la tête. Elle se détache des autres. Elle pointe en l'air, étourdie. Elle monte plus haut que les arbres, plus haut qu'un coq de clocher, vers le soleil. Et le chasseur, plein d'angoisse, la perd de vue, quand elle cède enfin au poids de sa tête lourde. Elle ferme ses ailes et va piquer du bec le sol, là-bas, comme une flèche. Celle-là tombe sans faire ouf, comme un chiffon qu'on jette au nez du chien pour le dresser. Celle-là, au coup de feu, oscille comme une petite barque et chavire. On ne sait pas pourquoi celle-ci est morte, tant la blessure est secrète sous les plumes. Je fourre vite celle-là dans ma poche, comme si j'avais peur d'être vue, de me voir. Mais il faut que j'étrangle celle qui ne veut pas mourir. Entre mes doigts, elle griffe l'air, elle ouvre le bec, sa fine langue palpite, et sur les yeux, dit Homer, descend l'ombre de la mort. Là-bas, le paysan lève la tête à mon coup de feu et me regarde. C'est un juge, cet homme de travail. Il va me parler. Il va me faire honte d'une voix grave. Mais non. Tantôt c'est un paysan jaloux qui bisque de ne pas chasser comme moi. Tantôt c'est un brave paysan que j'amuse et qui m'indique où sont allées mes perdrix. Jamais ce n'est l'interprète indigné de la nature. Je rentre ce matin après 5 heures de marche, la carnassière vide, la tête basse et le fusil lourd. Il fait une chaleur d'orage et mon chien, éreinté, va devant moi à petits pas, suit les haies et fréquemment s'assied à l'ombre d'un arbre où il m'attend. Soudain, comme je traverse une luzerne fraîche, il tombe, ou plutôt il s'aplatit en arrêt. C'est un arrêt ferme, une immobilité de végétal. Seuls les poils du bout de sa queue tremblent. Il y a, je le jurerais, des perdrix sous son nez. Elles sont là, collées les unes aux autres, à l'abri du vent et du soleil. Elles voient le chien, elles me voient, elles me reconnaissent peut-être. Et, terrifiées, elles ne partent pas. Réveillée de ma torpeur, je suis prêt et j'attends. Mon chien et moi, nous ne bougerons pas les premiers. Brusquement et simultanément, les perdrix partent, toujours collées, elles ne font qu'une, et je flanque dans le tas mon coup de fusil comme un coup de poing. L'une d'elles, assommée, pirouette. Le chien saute dessus et me rapporte une loque sanglante, une moitié de perdrix. Le coup de poing a emporté le reste. Allons, nous ne sommes pas bredouilles. Le chien gambade et je me dandine d'orgueil. Ah, je mériterais un bon coup de fusil dans les fesses. La bécasse. 1. Il ne restait d'un soleil d'avril que des lueurs roses aux nuages qui ne bougeaient plus, comme arrivés. La nuit montait du sol et nous vêtait peu à peu dans la clairière étroite où mon père attendait les bécasses. Debout près de lui, je ne distinguais nettement que sa figure. Plus grand que moi, il me voyait à peine, et le chien soufflait, invisible à nos pieds. Les grives se dépêchaient de rentrer au bois où le merle jetait son cri guttural, cette espèce de hennissement qui est un ordre à tous les oiseaux de se taire et de dormir. La bécasse allait bientôt quitter ses retraites de feuilles mortes et s'élever. Quand il fait doux, comme ce soir-là, elle s'attarde avant de gagner la plaine. Elle tourne sur le bois et se cherche une compagne. On devine, à son appel léger, qu'elle s'approche ou s'éloigne. Elle passe d'un vol lourd entre les gros chênes et son long bec pend si bas qu'elle semble se promener en l'air avec une petite canne. Comme j'écoutais et regardais en tous sens, mon père brusquement fit feu. Mais il ne suivit pas le chien qui s'élançait. « Tu l'as manqué ?» lui dis-je. « Je n'ai pas tiré, » dit-il. « Mon fusil vient de partir dans mes mains. »«
Tout seul ?»«
Oui. »«
Ah, une branche peut-être ?»«
Je ne sais pas. » Je l'entendais ôter sa cartouche vide.
« Comment le tenais-tu »
N'avait-il pas compris ?«
Je te demande de quel côté était le canon ?»
Comme il ne répondait plus, je n'osais plus parler. Enfin, je lui dis
« Tu aurais pu tuer le chien. »
« Allons-nous-en, » dit mon père.
2. Ce soir, il fait un temps doux après une pluie fine. On part vers 5 heures, on gagne le bois et on marche sur les feuilles jusqu'au coucher du soleil. Le chien multiplie dans le taillis ses lieux de chien. Sentira-t-il des bécasses? Peu importe au chasseur s'il est poète. Le quart d'heure de la croule venu, on se place. Toujours trop tôt, au pied d'un arbre, au bord d'une clairière. Les vols rapides des grives et des merles frôlent le cœur. Le canon du fusil bouge d'impatience. À chaque bruit, une émotion. L'oreille tinte et l'œil se voile. Et le moment passe si vite que c'est déjà trop tard. Les bécasses ne se lèveront plus ce soir. Tu ne peux pas coucher là, poète. Reviens, prends la traverse, à cause de la nuit, par les prés humides, où tes souliers écrasent les petites huttes molles des taupes. Rentre chez toi, au chaud, à la lumière, sans remords, puisque tu es sans bécasses. À moins que tu n'en aies laissé une à la maison.
une famille d'arbres. C'est après avoir traversé une plaine brûlée de soleil que je les rencontre. Ils ne demeurent pas au bord de la route à cause du bruit. Ils habitent les champs incultes, sur une source connue des oiseaux seuls. De loin, ils semblent impénétrables. Dès que j'approche, leur tronc se desserre. Ils m'accueillent avec prudence. Je peux me reposer, me rafraîchir, mais je devine qu'ils m'observent et se défient. Ils vivent en famille, les plus âgés au milieu, et les petits, ceux dont les premières feuilles viennent de naître, un peu partout, sans jamais s'écarter. Ils mettent longtemps à mourir, et ils gardent les morts debout jusqu'à la chute en poussière. Ils se flattent de leurs longues branches pour s'assurer qu'ils sont tous là, comme les aveugles. Ils gesticulent de colère si le vent s'essouffle à les déraciner. Mais entre eux, aucune dispute. Ils ne murmurent que d'accord. Je sens qu'ils doivent être ma vraie famille. J'oublierai vite l'autre. Ces arbres m'adopteront peu à peu. Et pour le mériter, j'apprends ce qu'il faut savoir. Je sais déjà regarder les nuages qui passent. Je sais aussi rester en place. Et je sais presque me taire. Fermeture de la chasse. C'est une pauvre journée, grise et courte, comme rognée à ses deux bouts. Vers midi, le soleil maussade essaie de percer la brume et entr'ouvre un œil pâle, tout de suite refermé. Je marche au hasard. Mon fusil m'est inutile, et le chien, si fou d'ordinaire, ne s'écarte pas. L'eau de la rivière est d'une transparence qui fait mal. Et si on y plongeait les doigts, elle couperait comme une vitre cassée. Dans l'étole, à chacun de mes pas jaillit une alouette engourdie. Elles se réunissent, tourbillonnent, et leur vol trouble à peine l'air gelé. Là-bas, des congrégations de corbeaux déterrent du bec des semences d'automne. Trois perdrix se dressent au milieu d'un pré dont l'herbe rase ne les abrite plus. Comme les voilà grandies. Ce sont de vraies dames, maintenant. Elles écoutent, inquiètes. Je les ai bien vues, mais je les laisse tranquilles et m'éloigne. Et quelque part, sans doute, un lièvre qui tremblait se rassure et remet son nez au bord du gîte. Tout le long de cette haie, ça et là une dernière feuille bat de l'aile comme un oiseau dont la patte est prise, un merle fuit à mon approche, va se cacher plus loin, puis ressort sous le nez du chien, et, sans risque, se moque de nous. Peu à peu, la brume s'épaissit, je me croirais perdu. Mon fusil n'est plus dans mes mains qu'un bâton qui peut éclater. D'où partent ce bruit vague, ce bêlement, ce son de cloche, ce cri humain? Il faut rentrer. Par une route, déjà effacée, je retourne au village. Lui seul connaît son nom. D'humbles paysans l'habitent, que personne ne vient jamais voir, excepté moi.